Je vais vous présenter les différents intervenants. Tout d'abord, va vous être présenté le résultat de l'étude GEMS. Donc, le GEMS est un outil que nous utilisons au CAPS. Cette étude va vous être présentée par Sarah Brissot-Jiménez, qui est psychologue clinicienne également au CAPS et qui a réalisé cette étude en collaboration avec le docteur Sylvie Maurice-Tison de l'ISPED. Ensuite, nous avons mademoiselle Capucine Pichard qui va nous présenter une analyse de fiches de recueil de données qui a été faite via l'IRMES. Donc nous allons écouter ces deux interventions, puis ensuite, comme depuis le début de ces journées, on se gardera un temps pour l'échange. Donc Sarah, je te laisse commencer.
Merci Estelle. Bonjour à tous. Donc en effet, le docteur Maurice Tison vous présentera dans quelques minutes des résultats chiffrés, les résultats de cette étude des bilans psychologiques. Et pour ma part, dans un premier temps, je vais plutôt vous expliquer d'où sont issus ces résultats, de quel terrain clinique, ce qui revient à évoquer une partie de notre activité au CAPS, celle que nous organisons avec l'utilisation de l'outil spécifique GEMS, que essentiellement je vais vous présenter, et ce qui vous permettra en outre de mieux comprendre les résultats qui vous seront décrits dans un second temps. Donc il faut dire que nous avons eu ce souci dès l'ouverture du service, dès l'ouverture du CAPS en 2001, de mettre au point une structure d'entretien en ayant ce double objectif d'avoir à notre disposition un outil qui soit avant tout clinique et qui, sur ce plan-là, soit spécifiquement adapté à la population des sportifs intensifs et aux problèmes potentiels qu'on pouvait connaître à leur sujet, qu'ils étaient susceptibles de connaître, un outil qui soit sensible, fiable, complet, mais aussi dont les données pourraient être exploitées à des fins de recherche. Donc la grille d'entretien pour une évaluation multidimensionnelle du sportif, qu'on appelle le GEMS, a été construite par des cliniciens et chercheurs sur le modèle de grilles déjà existantes et bien validées dans le champ de l'addictologie. Et notamment, ce sont les modalités de présentation, de passation et de cotation de l'Addiction Severity Index de McLellan qui ont été reprises et le contenu adapté à la population des sportifs. Donc notre outil lui-même a évolué, s'est adapté depuis sa première version. Nous utilisons une seconde version depuis 2003 et actuellement une troisième version est en cours d'élaboration pour être opérationnelle à la prochaine rentrée. Donc une troisième version qui tiendra compte des dernières années de passation, de l'avis de ses utilisateurs connus actuels et de l'exploitation d'un grand échantillon de près de 1000 sportifs. Donc finalement, la passation du GEMS se présente comme un entretien clinique, mais très structuré, et dont les informations vont être notées, vont être codées selon des conventions, des consignes très précises que l'on va retrouver dans son manuel d'utilisation. Les items, qui sont assez nombreux, vont amener le clinicien à évaluer les situations des sportifs dans une approche globale et complète, en s'intéressant aux principales thématiques qui participent à sa qualité de vie. Donc ces thématiques, ces principaux domaines, je vous les ai listés sur la diapo. Il s'agit donc des activités sportives, les âges de début des différentes disciplines, le temps consacré, les projets sportifs, les éventuelles difficultés en lien direct avec le sport, etc. Les activités scolaires ou professionnelles selon l'âge et les loisirs. Les relations avec la famille et les entourages sociaux, aussi bien les pères que l'encadrement, la santé physique, l'image corporelle et les comportements alimentaires, les usages de substances, donc produits dopants licites et illicites, le tabac, l'alcool, le cannabis et les autres drogues, et la santé psychologique. Dans chacun de ces domaines, on va s'intéresser à la fois à l'historique et à l'état actuel, au travers de deux périodes de référence complémentaires qui sont la vie entière jusqu'aux 30 derniers jours. Dans chacun de ces domaines, après avoir exploré un petit peu comment y évolue le sportif, comment il s'organise et quelles sont les difficultés qu'éventuellement il y rencontre, on va terminer en lui demandant de préciser son sentiment d'avoir besoin d'une aide par rapport à ses difficultés particulières en lien avec la thématique, en se situant donc sur une échelle de 0, non, pas du tout, à 3, oui, beaucoup, ça serait très important pour moi actuellement. Alors, il existe également une version de suivi de cet outil qui permet de réévaluer la situation clinique d'une même personne autant de fois que l'on veut, en respectant un délai néanmoins de 30 jours entre deux passations. Donc, ce qui permet de ne pas être redondant, sans perdre d'informations, sans répertorier non plus plusieurs fois le même événement. Donc, les utilisations principales de cet outil sont l'évaluation clinique, le repérage des personnes en difficulté, de manière à faciliter leur accès et l'organisation d'un soin qui soit le plus complet et le mieux adapté possible à la situation individuelle. Quand cette prise en charge n'est pas nécessaire, n'est pas indiquée, on fait de cet entretien un moment de prévention. Et dans un second temps, une fois remplie cette mission clinique, ces dossiers sont informatisés dans une base sur EpiInfo au moyen d'un masque de saisie que l'ISPED a créé pour le CAPS dès la première version, donc en 2001. Donc, nous utilisons cet outil depuis plusieurs années au CAPS, à la fois comme évaluation clinique initiale, hein, de base des patients, des nouveaux patients qui s'adressent ou qui sont adressés à notre service, mais aussi en allant vers de jeunes sportifs intensifs, en activité et tout venant, qui sont aujourd'hui la cible des arrêtés de loi concernant le bilan psychologique. Donc dans ce cadre, on l'a vu, hein, le GEMS permet tout à fait de répondre aux objectifs principaux de cette loi qui sont de dépister les difficultés, de prévenir ces difficultés et d'orienter vers un soin si besoin. Donc dans ce cadre bien particulier, nous avons rencontré depuis 2001 un grand nombre de sportifs donc qui forment un groupe, un échantillon que l'on a pu enfin exploiter sur le plan statistique grâce à l'intervention de l'IRMES et à l'aide de l'ISPED. Donc avant de laisser la parole à Sylvie pour qu'elle vous présente quelques-uns de ces résultats, ils sont très nombreux, on en a sélectionné certains qui nous paraissaient le plus pertinent dans le cadre d'une première description et étant donné le temps imparti. Donc avant de laisser la parole à Sylvie, je termine en précisant bien donc le terrain clinique, le contexte dans lequel ces données ont été recueillies, hein, duquel ces résultats sont issus. Donc il s'agit bien des bilans psychologiques en tant qu'examen systématique prévu par la loi dans le suivi médical de sportifs sur liste de haut niveau ou évoluant en filière d'accès au haut niveau. Ces entretiens ont tous été complétés, réalisés par des psychologues, donc des psychologues cliniciens formés et compétents, dans un entretien clinique structuré par le GEMS. Le plus souvent au sein même des structures sportives, CREPS, centres de formation, mais aussi dans des services de médecine du sport, en région Aquitaine. Donc toujours on précise à la personne, au sportif, quelles sont les raisons, les motifs et les objectifs de cet entretien et qui va avoir accès à son dossier, hein, de façon à, sachant qu'il est soumis au secret médical, hein, sachant, donc pour faciliter tout ça, sa compréhension de la démarche et sa mise en confiance.
Je vais développer maintenant les résultats de l'exploitation de cette base. Donc 6 années d'utilisation et je vous en rappelle les critères de sélection. Ce sont donc tous les sportifs vus par le CAPS dans le cadre des bilans psychologiques. Tout à l'heure, elle a employé le mot échantillon en termes de statistiques. Pour nous, c'est une population puisque ce sont la totalité. Ils ne sont pas triés. Alors il serait un échantillon éventuel de la population française, des mêmes sportifs, mais ils sont en fait toute la population des sportifs vus par le CAPS. Et pour vous frustrer tout de suite, on a effectivement sélectionné les domaines. Donc par exemple, on ne va pas parler de l'alcool, on ne va pas parler des blessures, on ne va pas parler d'un certain nombre de choses. La totalité des résultats sont dans le rapport que nous avons rendu à l'IRMES fin 2008 et ils sont pour la première fois présentés ici avant publication. Alors les premiers chiffres d'abord pour vous montrer un petit peu le recrutement. Le recrutement de ces 971 sujets, majoritairement le CREPS, mais aussi Sport Santé Sud-Aquitain. Disons tout de suite qu'on a une large majorité de garçons, c'est pour ça qu'elle employait aussi le masculin en disant le sportif. On a 70% de garçons et 62% d'adolescents de 15 à 17 ans et 16% d'encore plus jeunes. On se souviendra de ces fortes majorités de garçons et de très jeunes parce que les résultats globaux sont évidemment influencés par ça. C'est aussi pour ça que le plus souvent, on présentera les résultats séparément des filles et des garçons puisque leur proportion ne sont pas équitables dans la population. On dira aussi deux mots du fait que 70% d'entre eux vivent en institution ou au foyer. Je l'ai un petit peu plus détaillé. On en a parlé hier aussi en termes parfois de facteurs protecteurs d'entourage, comme facteurs de réussite d'entourage s'ils sont délétères, mais parfois ça peut être des facteurs d'éloignement qui sont stressants. Parfois, ça peut être des soutiens qui ne seront pas là quand l'enfant en aura besoin ou l'adolescent. Et pour aller plus loin, on explorait non seulement le pourcentage de vie en collectivité, mais aussi s'ils en étaient satisfaits. Alors, on peut regarder ces chiffres de deux manières. La très large majorité sont satisfaits de cet hébergement et de cette vie en collectivité. Et je crois que personne n'a oublié que là, il y en aura quand même 1 ou 2 sur 10 qui n'est pas satisfait de cette vie en collectivité. La plus forte proportion étant à partir de 15 ans. Concernant les sports, on ne va pas non plus, pas plus que ce matin, séparer les disciplines, à la fois pour des questions d'effectifs, mais aussi parce que ça paraissait moins intéressant que de regarder globalement l'ensemble. La seule chose que parfois on distinguera, c'est les pratiquants en termes de sport principal pratiqué. Est-il un sport individuel ou collectif? Vous verrez dans, pour quel domaine c'est intéressant. On a aussi une petite précaution méthodologique. On a sélectionné pour l'étude des domaines pour l'étude de la durée de sport, on a sélectionné ceux qui étaient en activité, puisque certains sportifs sont vus dans le cadre d'arrêt ou à des moments où leur pratique baisse. Donc c'est sur ceux qui ont encore une activité intensive. Et vous verrez que cette moyenne-là, vous voyez qu'elle est de 12h30, avec déjà près de 12 heures en moyenne chez les 10-14 ans. Donc on est sur une frange non négligeable, au-delà des heures dont il était fait état hier comme étant peut-être des entraînements intensifs, voire abusifs pour certains. On n'a pas trié les autres résultats en fonction de ça, mais vous nous en avez donné l'idée hier. Un autre point important, qu'est-ce qu'on a ? Oui. Pour chacun des domaines du GEMS dont on va parler, puisqu'elle vous a dit qu'on les explorait sur deux périodes, on va pouvoir donner une prévalence de troubles récents dans les 30 derniers jours, ce qui reflète globalement l'état actuel, et on va pouvoir donner, et ça ce sera généralement en couleur bleue, les prévalences vie entière de certains problèmes. Et on s'est permis de faire un certain nombre de comparaisons selon l'âge, entre filles et garçons, ou parfois selon les catégories de sport. On ne présente ici que les différences qui sont statistiquement significatives, et même si je les affectionne beaucoup, je ne vous ai pas mis les petits p plus petits que pour dire que c'était significatif, et les groupes où les prévalences sont plus élevées seront en rouge. On commence par la dépression, donc on a 7,9% globalement, c'est pas ça qui est probablement important, mais l'idée que deux fois plus souvent les filles que les garçons, 12% des filles, 6% des garçons, au moment où ils sont vus, ont un problème diagnostiqué par le psychologue comme du registre dépressif. Et concernant l'anxiété, toujours pareil, actuellement, plus fréquente et plus souvent trouvée que la dépression, sans différence entre les filles et les garçons. Les mêmes sujets vie entière en termes de dépression. Donc on est sur des jeunes, je vous avais dit tout à l'heure, qui avait quand même un pourcentage non négligeable de 18 ans et plus. Hein. On est sur une prévalence vie entière de 35%, avec là aussi une différence significative entre les filles et les garçons, 44% chez les filles, 31% chez les garçons. Et c'est logique, étant donné le mode de recueil qui cumule et qui est la fréquence vie entière, c'est logique d'en trouver beaucoup plus en fonction de l'âge, puisque les expériences antérieures sont décomptées quand on est plus âgé. Concernant l'anxiété, des chiffres un petit peu en dessous, mais avec un gradient, encore une fois, filles-garçons, et selon l'âge, mais qui n'est pas significatif. Les autres items explorés, la confiance diminuée, l'extrême timidité, les problèmes d'attention, la perte de contrôle de soi, les troubles du sommeil. Et en termes de fréquence, donc vous voyez des fréquences qui vont de 5% pour la perte de contrôle de soi, à 13% pour les troubles du sommeil globalement. Là, encore une fois, c'est la mesure de l'état actuel. On va le voir maintenant vie entière. Et vie entière, on est sur des chiffres qui concernent de 1 sur 4 à 1 sur 5 de ces jeunes gens. Et j'attirais votre attention sur les problèmes d'attention qui ont été retrouvés, là aussi avec une différence significative selon l'âge, et en particulier pour les jeunes de 15 à 17 ans, donc, dont on imagine qu'ils sont scolarisés au lycée, qu'ils ont besoin de toute leur attention pour leur réussite scolaire et non seulement sportive. En termes de perte de contrôle de soi, c'est un gradient ici qui est, à l'inverse de la dépression, un inverse avec davantage de garçons que de filles qui évoquent ce souci. Quant aux troubles du sommeil, pourquoi on les a isolés? Comme dans beaucoup d'études, c'est vrai qu'on les, même si ça fait partie des symptômes de la série dépressive, on les montre assez souvent séparément, à la fois parce que c'est assez facile à recueillir comme données, c'est souvent un des premiers passages à la médication ou à l'automédication ou à la prescription. Ensuite, on a aussi, ici dans ce domaine-là, particulier des sportifs, peut-être l'idée que les troubles du sommeil, quand on fait autant d'entraînement, qu'on a autant besoin de récupération, c'est peut-être un souci particulier. Et ici, on a quand même des problèmes du sommeil qui apparaissent fréquemment, plus souvent chez les filles que les garçons, et déjà présents chez les moins de 15 ans, ce qui est assez intéressant. L'autre implication dans un monde sportif, c'est aussi l'idée que peut-être que certaines pratiques sportives sont favorisantes pour les troubles d'endormissement, comme des entraînements tardifs le soir et des choses comme ça. Donc peut-être que là, sans chercher la causalité, on peut chercher des facteurs favorisants sans être trop, trop hasardeux ou sans que ce soit des élucubrations. Mais en tout cas, poser cette grande fréquence de troubles du sommeil n'est pas anodin pour nous. Enfin, le dernier domaine dont on va parler là, on en a beaucoup parlé hier, c'était les préoccupations exagérées concernant la nourriture et le poids et le contrôle du poids. Donc une prévalence actuelle qui est importante, qui est 10%, parmi lesquels 17% avec un retentissement invalidant, donc ce n'est pas rien. Et la restriction alimentaire actuelle, c'est 3% des individus qui sont vus lors de ces bilans qui parle de restrictions alimentaires. En termes de prévalence vie entière de ce même problème, on est sur des chiffres beaucoup plus importants, avec 23% des sportifs qui parlent de préoccupations exagérées concernant la nourriture et le poids, un gradient fille-garçon avec des chiffres qui vont du simple au double, et ici, bien entendu, sans aucune prétention ici de parler de causalité, il peut y avoir aussi la ségrégation, il y a des tas d'autres raisons, mais quand même une différence qui est statistiquement très significative entre les pratiquants de sport individuel, où 29% contre 16% les pratiquants de sport collectif ont eu des épisodes prolongés de préoccupations exagérées sur le poids et la nourriture. En termes de restrictions alimentaires, un sportif sur 6, et ce 1 sur 6 n'a pas non plus beaucoup de sens, puisqu'en réalité, c'est important de voir que c'est une fille sur 4 et plus d'un garçon sur 10. Et là aussi, en termes de sport individuel versus collectif, en termes de restrictions alimentaires, non seulement c'est significatif parce que c'est 22% versus 7%, mais 22% c'est quand même un chiffre assez important. Même si la différence n'est pas significative et la progression selon l'âge, ce qu'il me reste de médecine depuis que je fais des statistiques me permet de penser que avant 15 ans, des restrictions alimentaires chez 6% des sportifs, ce n'est pas du tout quelque chose de normal, 15 à 17 ans non plus, et après 18 ans, même s'ils sont majeurs, comme on l'a entendu hier, probablement que la restriction alimentaire à cette hauteur-là est quelque chose qui doit interpeller les cliniciens et pas simplement les gens de santé publique. Donc, analyser la base, c'est chose faite d'une certaine manière. Ce qui est important, c'est de rappeler que ces chiffres sont issus de bilans et que dans ces bilans, il y avait bien évidemment le besoin d'État. Donc, les 5 dernières minutes.
Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, à la fin des grandes thématiques explorées dans la passation du GEMS, on va terminer donc en demandant à la personne de se situer, de situer sa demande d'aide sur une échelle de 0 à 3. Et on voit donc à cette question, ce qui apparaît au premier plan, ce sont des demandes concernant la scolarité, ou la vie professionnelle, mais ici, étant donné la moyenne d'âge, c'est plutôt sur des questions de scolarité, puisqu'ils sont quasiment la moitié à exprimer un besoin d'aide pour des raisons de difficultés scolaires ou pour des questions d'orientation dans leur scolarité ou leur vie professionnelle. Donc nous montrant qu'ils sont bien conscients de cet aspect de leur double projet, mais aussi qu'il leur pose très souvent difficultés. Ensuite, on a un pourcentage important de demandes qui touchent directement à la sphère sportive. Donc ici, ça va concerner des questions de performance, de motivation sportive, des demandes de préparation mentale ou de gestion du stress précompétitif, des demandes concernant l'amélioration de l'habileté technique, etc. 37,4% expriment un besoin d'aide pour des raisons qui touchent à l'image corporelle ou à l'alimentation, à la gestion du poids. Donc là, ça va des simples conseils diététiques jusqu'aux troubles du comportement alimentaire avérés. 19% expriment un besoin de soins médicaux. D'après mon expérience, pour des raisons qui sont souvent des dommages créés directement par leur pratique sportive, blessures, douleurs. De manière très proche, donc 18,8%, près de 19% aussi, expriment un besoin d'aide pour des difficultés psychologiques et pour des raisons donc bien distinctes de la préparation, de la préparation mentale et de l'aide à la performance, hein, je le précise parce que c'est important. Donc si on regarde un peu plus près cette demande d'aide psychologique, on la retrouve plus fréquemment chez les filles et chez les plus âgées, les plus jeunes et beaucoup plus chez les plus âgées. Alors pour terminer... Peut-être qu'on peut dire que finalement nous avons, par les modalités de notre intervention clinique dans la réalisation de ces bilans psychologiques, fait émerger, dépisté des difficultés que nous avons pu donc finalement quantifier grâce à l'aide de l'IRMES et de l'ISPED, avec un recul de plusieurs années pendant lesquelles nous avons rencontré un nombre important de sportifs, donc un groupe de près de 1000 sportifs qui a été analysé ici. Donc, de ces premiers résultats qui vous ont été présentés aujourd'hui, peut-être on pourra retenir que ce sont près de 20% d'entre eux, 19% plus précisément, qui expriment un besoin d'aide pour des raisons psychologiques, ce qui correspond d'ailleurs à peu près au pourcentage de ceux qui seront en effet suivis dans les suites immédiates de ce bilan. Les difficultés qui le plus souvent justifient ce soin psychologique sont plutôt des éléments dépressifs. Donc des éléments dépressifs qui peuvent être directement liés à un contexte sportif. On peut penser à la blessure ou à l'échec qui sont des moments de vulnérabilité, mais aussi à toutes sortes d'autres raisons. Les filles et les sportifs qui pratiquent une discipline individuelle sont plus souvent concernés par certains types de difficultés, et les difficultés qui les concernent davantage sont justement ces éléments dépressifs, mais aussi, comme on l'a vu, toute une série de préoccupations excessives, inadaptées, voire pathologiques, en lien avec l'image corporelle, avec la gestion du poids, et comme on l'a vu, avec des restrictions alimentaires sévères et de longue durée. Donc, malgré tout, si on leur demande quelle est leur perception de la répercussion de leur pratique sportive intensive sur leur bien-être psychologique, sur leur santé mentale, en réalité, sont moins de 3% à estimer qu'elle est négative, alors que 87,4% la pensent tout à fait positive et quelques-uns ne se prononcent pas. Nous avons choisi de terminer sur cet élément de réflexion et nous vous remercions de votre attention.
Merci. Merci Sarah, merci Sylvie pour cette présentation claire et rigoureuse. Nous allons passer à l'intervention donc de Capucine Pichard. Le titre de son intervention est « Suivi psychologique des sportifs espoirs et de haut niveau français, analyse de 1500 grilles ».
Bon, bonjour à tout le monde. Je vais vous présenter l'analyse des données qui ont été recueillies par l'IRMES durant la saison 2007-2008 par rapport au bilan psychologique des sportifs. Données sur lesquelles j'ai travaillé durant 10 mois à l'IRMES. Donc d'abord, il faut savoir que l'étude que je vais vous présenter va être très redondante avec l'étude précédente. C'est vraiment, ça se complète et ça confirme les résultats. Il faut savoir qu'il y a d'abord très peu ou pas du tout d'études qui ont été faites sur les troubles psychopathologiques chez les sportifs de haut niveau. Certaines études ont été réalisées en population générale, où on voit effectivement les troubles psychopathologiques, en population alcoolodépendante, en population étudiante sportive, ou suivant un profil spécifique à un sport donné, donc le foot, le judo, etc. Les bilans psychologiques, donc c'est pour ça que l'IRMES a créé une grille. Les bilans psychologiques, l'arrêté a été fait en juin 2006 par rapport au bilan obligatoire chez les sportifs de haut niveau, à raison de deux fois par an chez les sportifs mineurs et une fois par an chez les sportifs majeurs. Donc réalisé lors d'un entretien spécifique par un médecin ou par un psychologue. L'objectif de ce bilan était de détecter les difficultés psychopathologiques en tenant compte également des facteurs personnels et familiaux de vulnérabilité ou de protection, prévenir les difficultés liées à l'activité sportive et surtout orienter vers une prise en charge adaptée si besoin. Donc trois exemples de bilans. Les bilans réalisés à l'INSEP, réalisés à l'aide du MINIC à l'entretien diagnostique structuré qui explore l'axe 1 du DSM-4 et surtout l'entretien clinique qui est la partie la plus importante dans le bilan psychologique. Donc au CAPS, comme ça vient d'être présenté, le GEMS avec l'entretien qui va avec. Et à l'IREPS à Montpellier, c'est une fiche de renseignement de plusieurs pages et un entretien clinique. C'est que certains bilans. Il y a d'autres bilans qui ont été faits où on ne sait pas forcément comment ils ont été faits et ce qui fait partie de ce bilan. C'est le problème que je vais vous présenter plus tard. Donc les sportifs impliqués, comme on a vu, c'est les sportifs de haut niveau, qui est la catégorie officielle du ministère de la Santé et des Sports, avec quatre catégories, élite, senior, jeune et reconversion, et les sportifs dits espoirs, c'est-à-dire dans les filières d'accès au sport de haut niveau. Donc la population, par rapport au bilan, aux fiches de recueil recueillies par l'IRMES, on avait 1482 fiches de recueil, qui représentent 9% des sportifs de haut niveau français et 9,6% des espoirs. La répartition 56% d'espoirs et 42% de sportifs de haut niveau, qui amène à une moyenne d'âge de 18 ans et demi, avec minimum 11 ans, maximum 41 ans. Une majorité d'hommes, 63% d'hommes et 36% de femmes. L'épaule le plus représenté, c'est-à-dire l'épaule où on a eu le plus de retours par rapport au bilan réalisé, c'est au niveau du Krebs de Toulouse, l'INSEP et le Krebs de Dijon. Et les sports les plus représentés, le judo, canoë-kayak, et rugby et hand. Donc les grilles de l'IRMES. À partir des bilans du décret fait par le ministère, l'IRMES a décidé de créer une grille qui va être une fiche de recueil. Ce n'est pas destiné à remplacer le bilan, ça c'est une chose très importante, parce qu'il y a certains médecins, et surtout certains médecins et personnes qui font passer les bilans, qui se sont servis de la grille comme bilan, et ce n'est pas le cas. Donc l'IRMES a réalisé cette grille avec l'aide de professionnels de santé, des psychologues, psychiatres, sociologues, médecins du sport, médecins généralistes. Ça s'appuie sur le DSM-4 ou le CIM-10. Et enfin, ça a été envoyé à tous les pôles d'entraînement en France, les présidents des fédérations et les médecins fédéraux. Donc une première partie avec des facteurs de protection et de vulnérabilité en 5 items. Donc les sphères personnelles et familiales, l'environnement sportif, la vie scolaire, universitaire ou professionnelle, la santé physique et la vie sociale. Avec quatre possibilités de cotation. 1, c'était non satisfaisant. 2, moyennement satisfaisant. 3, satisfaisant. 4, très satisfaisant. Il faut savoir que 95% des sportifs étaient satisfaits des 5 items, entre moyennement satisfaisant et très satisfaisant. Les deux items qui ressortaient où il y avait le plus de sportifs non satisfaits, c'était la vie scolaire et la santé physique avec environ 4% de non satisfaits. À savoir que les femmes sont les plus insatisfaites en ce qui concerne la sphère personnelle et familiale et la vie sociale. Et on a essayé de faire une répartition par région, avec 5 régions, Île-de-France, Sud-Ouest, Sud-Est, Nord-Est, Nord-Ouest, et c'est l'Île-de-France où il y aurait le plus de sportifs insatisfaits. Au niveau de troubles psychopathologiques, donc il y avait une première question, avez-vous été suivi ou êtes-vous suivi, avez-vous un suivi psychopathologique? Donc on peut répondre par oui, non ou ne sait pas. Après on regardait les épisodes dépressifs avec les dépressions mineures et dépressions majeures, les troubles anxieux, les tentatives de suicide et les risques suicidaires, les troubles psychotiques, les troubles du comportement alimentaire et les usages de substances avec abus et dépendance qui font partie donc du DSM-4. On avait également des questions au niveau du trouble du sommeil et des violences portées et subies. Donc au niveau des résultats, les médecins et les psychologues pouvaient répondre oui, non ou ne sait pas. Si c'était oui, il fallait qu'ils mettent si c'était vie actuelle ou vie passée. ils pouvaient mettre que c'était vie actuelle et vie passée. On peut avoir des épisodes dépressifs passés et des redondants et ça devient actuel. Donc ce que je vous présentais là, c'est en lifetime, c'est-à-dire vie entière. Donc au niveau des troubles psychopathologiques vie entière, on a 9% environ de dépression mineure et 3% de dépression majeure. Au niveau vie actuelle, il y a seulement à peu près 3% de dépression. Ça, c'est en vie entière. Au niveau de troubles anxieux, c'est l'anxiété généralisée qui ressort, donc environ 8% d'anxiété généralisée. Et enfin, environ 4,5% de troubles du comportement alimentaire non spécifiques. Il faut savoir que donc la population est une population assez jeune, on a 18 ans et demi de moyenne d'âge. Au niveau des consommations de substances, c'est l'alcool qui ressort majoritairement des consommations actuelles, avec environ 18% de consommation d'alcool chez les sportifs de haut niveau et les sportifs espoirs. On a très très peu de réponses au niveau des substances dopantes, EPO, substances psychoactives. Alors, est-ce que c'est les sportifs qui n'ont pas voulu donner les réponses ou est-ce que c'est les personnes qui ont fait passer le bilan qui n'ont pas pu poser la question parce qu'il y a une personne réticente en face ou ça, on ne sait pas. Étant donné que ce n'est pas nous qui faisions passer les bilans, qu'on n'avait que le recueil de données, on ne sait pas comment le bilan a été passé. Donc, au niveau abus et dépendance, qui sont des troubles psychopathologiques reconnus, c'est au niveau de l'alcool où il y aurait le plus d'abus, avec 3% environ d'abus d'alcool. Et très peu de dépendance. Et après, on arrive au niveau du tabac. Les troubles du sommeil. Donc, 27% des sportifs présentent des troubles du sommeil. Donc, c'est ce que disait le docteur Maurice Tisson tout à l'heure. On ne sait pas si c'est effectivement des entraînements tardifs ou si tel ou tel sport va peut-être être plus traumatisant au niveau du sommeil ou des choses comme ça. On n'a pas fait de différence par sport parce qu'on avait des sports avec seulement 3 sportifs, des sports avec 30 sportifs, c'était délicat de faire un classement. Donc vous avez une période passée et après la période actuelle pour les difficultés d'endormissement, réveil nocturne et somnolence diurne. Là aussi, c'est en Île-de-France où il y a le plus de troubles du sommeil. Au niveau des violences, donc les violences portées sur votre droite, c'est surtout de l'hétéro-agressivité à raison de 2% et 0,5% d'auto-agressivité. Au niveau des violences subies, c'est surtout des harcèlements et agressions verbales. Et on a, alors je vais dire que 0,2% d'agressions sexuelles et d'harcèlement. Est-ce que, au chiffre qu'on a pu voir sur ces deux jours, est-ce que c'est pas minimisé, surtout que les sportifs n'en parlent pas au moment du bilan psychologique? Donc on n'a pas fait de répartition par sexe, par âge, ni par sport, parce que c'était délicat à mettre en place. On a essayé de faire une répartition par région, parce qu'effectivement, on sait qu'il y a des gradients dans la population générale où il y a plus de dépression sur un gradient nord-sud, où par exemple, pour les consommations d'alcool, on sait qu'il y a des régions où il y a plus de consommation d'alcool, comme la Bretagne et l'Aquitaine. Mais ça ne ressort pas sur nos résultats. Donc au niveau des troubles du sommeil, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'Île-de-France où il y a le plus de troubles du sommeil, mais à égalité avec le Nord-Est, c'est dans le Sud-Ouest où on dort le mieux, donc ça tombe bien. Il faut savoir aussi, surtout, quand on fait une répartition par région, c'est qu'on n'a pas eu le même retour de chaque région, c'est-à-dire que le Sud-Est a été la région où on a eu le moins de retour. 10% de nos bilans représentent le Sud-Est, alors que 22% représentent le Sud-Ouest ou l'Île-de-France. Donc on a des régions qui sont sous-représentées. Et pour les DOM-TOM, on n'a eu que 11 retours de bilan. Donc je n'ai pas pu faire une analyse dessus. Au niveau de la consommation d'alcool, ce n'est absolument pas l'Aquitaine qui ressort. C'est le Sud-Est. Donc, et pourtant, c'est la région où on a eu le moins de retours. On n'a eu que 10% de retours, mais visiblement, il y a une consommation d'alcool. Alors c'est bien une consommation. Je ne parle pas d'abus de dépendance, c'est juste une consommation. Au niveau des épisodes dépressifs majeurs, c'est l'Île-de-France, où il y aurait le plus de dépression. Mais à savoir également que surtout dans l'Île-de-France, on connaît très bien les bilans qui ont été passés, c'est surtout l'INSEP, et ça a été des bilans qui ont été passés que par des psychologues. Alors que dans les autres régions, il y a également des médecins du sport et des médecins généralistes qui ont pu faire passer des bilans, et on verra par la suite qu'il y a une possible sous-déclaration des troubles par les médecins du sport ou les médecins généralistes. parce qu'effectivement, c'est significatif. Il y a beaucoup plus de troubles déclarés par les psychologues et les psychiatres que par les médecins. Au niveau des épisodes dépressifs, ce qu'on appelle mineurs, qui apparaît, là, c'est dans le sud-est. Il y aurait plus d'épisodes dépressifs mineurs, mais c'est à peu près égal. Il n'y a que dans le nord-est où il y aurait moins d'épisodes dépressifs mineurs. Au niveau de l'anxiété, on retrouve l'Île-de-France. Et après, c'est à peu près égal sur les quatre autres régions. Alors, on a essayé de faire une répartition selon la liste, parce que comme on a vu, il y avait plus d'espoir que de sportifs de haut niveau. C'est ce que les résultats précédents montraient, qu'effectivement, par exemple, au niveau des épisodes dépressifs, effectivement, il va y avoir plus de sportifs de haut niveau qui présentent des épisodes dépressifs que les espoirs, puisqu'effectivement, ils sont plus âgés. Et donc, l'expérience va faire qu'effectivement, ils vont peut-être avoir plus d'épisodes dépressifs. Et c'est pareil pour les troubles anxieux. Donc, ce qu'on a pu voir en majorité, c'était donc 27% de troubles du sommeil chez les sportifs et une consommation d'alcool assez élevée. Les troubles psychopathologiques qui ressortent sont les épisodes dépressifs, les troubles anxieux avec l'anxiété généralisée et les troubles du comportement alimentaire non spécifiés. Et en fait, il faut savoir que si on regarde tous les sportifs en ne regardant que les troubles psychopathologiques, donc pas les troubles du sommeil et pas les consommations d'alcool, il y a quand même un quart des sportifs, donc 25%, qui a présenté au moins une fois un trouble psychopathologique vie entière. À savoir que c'est l'Île-de-France qui présenterait le plus de troubles et le Sud-Ouest où il y aurait le moins de troubles. Donc il faut savoir que la grille de l'IRMES présente quand même de nombreux biais et limites. D'abord, c'est un recueil de données. Donc c'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout les bilans qui ont été passés. On ne sait pas du tout quel genre de bilan ont été passés. On le sait pour l'INSEP, on le sait pour le CAPS, on le sait pour certaines données. Mais sinon, on ne sait pas comment le bilan a été administré. Donc ça, effectivement, c'est difficile de comparer 1500 grilles, chacune ne provenant pas du même endroit et n'ayant pas été passée par de la même manière. La répartition régionale, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'a que 10% qui viennent du Sud-Est et une majorité d'Île-de-France et du Sud-Ouest. Donc c'est difficile de comparer étant donné qu'on n'a pas le même retour de chaque région. Une différence de déclaration suivant le professionnel, c'est ce que je vous disais. Un tiers des bilans qui ont été administrés par des médecins du sport et des médecins généralistes. Et effectivement, on a pu voir que visiblement, il y aurait moins de troubles détectés par les médecins du sport. C'est une éventualité, on ne sait pas si c'est le cas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a des chiffres qui sont bien inférieurs à ceux du CAPS et à ceux de l'INSEP. Ayant travaillé 2 ans sur l'INSEP, sur les bilans psychologiques, les chiffres n'ayant pas été publiés, je ne peux pas vous les donner, mais les chiffres sont plus proches de ceux du GEMS et du CAPS que de ceux de l'IRMES. Et par contre, ce qu'on sait, c'est qu'à l'INSEP comme au CAPS, tous les bilans ont été administrés par des psychologues. Donc est-ce que ça peut jouer? C'est une possibilité. Et enfin, c'est une chose très importante, c'est que la grille de l'IRMES n'est pas le bilan psychologique. Et malheureusement, j'ai eu des retours de médecins qui m'envoyaient des mails en me disant « je l'ai donné aux joueuses, la grille, et elles vont le remplir ». C'est-à-dire qu'il y a des médecins qui utilisent la grille comme bilan psychologique et surtout qui font remplir leur bilan psychologique par les sportifs. Et donc là, on a un retour, pour moi, qui ne veut rien dire. Hein, ce n'est pas un joueur qui peut s'évaluer lui-même. Et le médecin, sinon, utilise lui-même la grille comme bilan psychologique. Donc les perspectives, c'est développer les connaissances sur la santé des sportifs, mieux comprendre les circonstances particulières de la pratique du haut niveau. C'est quand même une pratique bien à part, très spécialisée. Éviter les situations à risque. On pourrait se poser la question en comparant par rapport à la population générale, mais ce n'est pas comparable à l'heure actuelle. On ne peut pas comparer. Les populations n'étant pas appariées par sexe et par âge, c'est absolument pas comparable. Les données qu'on a, c'est des données entre 15 et 60 ans dans la population générale. Chez les sportifs, c'est une moyenne d'âge de 18 ans, mais on a entre 11 et 41 ans. Enfin, on ne peut pas comparer. On a des données en dessous de la population, des résultats qui sont en dessous de la population générale, mais c'est absolument pas comparable. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Je tenais à remercier l'ensemble des équipes de médecins et psychologues qui ont renvoyé ces grilles de l'IRMES. Ça fait du travail en plus parce qu'il faut faire passer le bilan et ensuite remplir la grille et la renvoyer. Donc c'est pas forcément toujours facile. Le ministère de la Santé et des Sports qui finance cette recherche et qui finance l'IRMES. Et Serge Simon et l'équipe du CAPS pour m'avoir permis de présenter ces résultats. Je vous remercie.
Merci beaucoup.
cette présentation. En effet, comme tu as pu l'évoquer, ou du moins le nuancer, à un moment donné, on peut penser que pour le milieu sportif, les intervenants, le bilan psychologique, la grille Hermès peut être un peu confusiogène dans ce que le rôle de chaque document. On peut comprendre qu'à certains moments, voilà, ça peut être difficile pour les acteurs du milieu sportif d'identifier à quoi correspondait et à quoi, quelle était l'utilité des documents qu'ils avaient en possession. Voilà. Y a-t-il des questions sur ces interventions?
Oui, je me permettrai de faire une remarque sur la méthodologie de la grille de l'IRMES. Je pense que vous êtes arrivé avec un tel degré de biais parce que vous ne connaissez pas la personne qui fait passer la grille. À la limite, elle est remplie toute seule, elle peut même peut-être être remplie par un tiers. Donc exposer des résultats avec une puissance statistique aussi faible, bon, qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Enfin, parce que la puissance statistique, là, c'est... Et je pense que l'erreur méthodologique, elle vient du départ. En transmettant les grilles aux fédérations, sans prendre le biais de recouper l'information par le ministère, et j'ai mes collègues médecins conseillers qui sont là, et moi je l'étais moi-même avant, mais forcément, vous arrivez à une étude qui a une puissance statistique quasi nulle. On ne connaît pas le retour pour chaque région. Alors, vous nous mettez un petit P intéressant entre le fait que ce soit un médecin ou un psychologue. Mais comment vous pouvez présenter des résultats avec des pourcentages alors qu'au départ, la méthodologie va vous amener à de tels biais qu'on ne peut pas en tirer une interprétation. Il n'y a qu'une chance, c'est qu'effectivement, vous tombez à peu près sur les mêmes chiffres que le GEMS, où on retrouve des éléments communs. Mais stigmatiser l'Île-de-France, où probablement il y a plus de pathologies, je vous l'accorde, que peut-être que dans les régions.
Non, vous avez tout à fait raison. Je ne vais pas essayer de me défendre. Je suis arrivée à l'IRMES en septembre cette année, en septembre 2008. Donc la grille avait déjà été faite et on m'a proposé de travailler dessus. Donc c'était moi ou un informaticien statisticien. Donc je préférais moi en tant que psychologue essayer de m'investir et essayer de sortir quelque chose, essayer d'éviter qu'il y ait trop de biais, même au niveau de l'appellation des pathologies, ce qui a été assez difficile. Donc j'ai préféré essayer de travailler là-dessus. Mais effectivement, la grille Hermès, il y a énormément de biais et de limites. On ne sait pas qui fait passer les grilles, on ne sait pas comment. Ça a été envoyé normalement au ministère qui est censé le transmettre à tous les médecins, les pôles, etc. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de court-circuitage. Et effectivement, je pense que c'était une demande du ministère d'essayer d'avoir des données sur les troubles psychopathologiques des sportifs. Et bon, ils ont essayé de faire au mieux, je pense, même si effectivement il y a des biais, des limites, et que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas comparables.
Merci d'accepter la critique. Et je pense effectivement, mais très subjectivement comme vous, qu'un médecin de pôle qui n'aurait pas été préparé au passage de cette grille va marcher comme un éléphant dans un magasin de porcelaine et passera à côté de signes subtils pour les connaître, à côté desquels les psychologues comme celle qui a, puisque vous avez évoqué à l'INSEP, puisqu'elles ont rendu les grilles, ne passeront pas. Enfin, je pense à Myriam Salmi, il y a des gens comme ça qui ont une finesse d'approche que ne peut pas avoir que les médecins comme moi, parce qu'on n'a pas la formation de cette approche-là et qu'on a probablement en plus un voile inhérent du fait d'être trop près de la pratique qui peut nous éviter la prise de distanciation.
Oui, voilà. Tout à fait. Mais c'est ce que vous disiez. Si j'ai travaillé là-dessus par rapport à l'IRMES, c'est parce que j'ai fait 2 ans de stage à l'INSEP avec Myriam Salmi, donc jusqu'en juin l'année dernière. Et donc c'est elle qui m'a proposé de continuer là-dessus et qui a demandé à ce que ce soit moi qui continue là-dessus parce qu'il y avait tous les bilans de l'INSEP à traiter et qu'elle ne voulait pas que ce soit quelqu'un qui ne connaisse pas le domaine qui puisse le faire. Donc c'est effectivement Myriam Salmi qui m'a...
Oui, je voudrais remercier donc Capucine de cette présentation, de cette prise de risque, on va dire, hein, acceptée. Je regrette l'absence de Jean-François Toussaint qui était là hier et qui est le directeur de l'IRMES, qui aurait certainement pu argumenter.
Je ne peux pas défendre.
Voilà, exactement. C'est dommage que Jean-François ne soit pas là. Mais au-delà du débat, et la remarque de Frédéric est intéressante parce qu'elle ne va pas réouvrir ce débat-là ici, mais c'est une vieille question qui tourne, c'est-à-dire la mise en code, la mise en norme, la mise en standard du bilan psychologique. Depuis l'apparition du décret, le premier, c'est-à-dire 2004, où c'était juste le bilan psychologique faisait partie de l'examen de médecine générale, et puis on l'a sorti, on en a fait un examen spécifique, dédié. Reste toujours la question de qui le fait, comment le fait-on, y a-t-il un outil, y a-t-il une méthode, y a-t-il un standard. Et c'est vrai qu'il y a, c'est toujours une question qui plane. Beaucoup de gens ont essayé d'inventer des choses. Nous les premiers, on a fait le GEMS, qui, je le rappelle, nécessite une formation. C'est-à-dire on ne fait pas passer un GEMS comme ça, mais parce qu'on a tout à fait le sentiment que de donner même une grille d'entretien semi-directive, ça ne peut pas se faire comme ça et à n'importe qui. Donc il faut avoir une formation de psychologue ou de médecin et être formé aussi pendant une journée à la passation du GEMS. Donc on a ce sentiment-là qu'on ne peut pas laisser comme ça un bilan psychologique se faire dans la nature, même avec un outil. Montpellier a une autre méthode qui est très bonne, qui depuis un moment fonctionne sur un entretien beaucoup plus clinique, libre, qui pose pour nous un problème, c'est un autre regard de standardisation des informations recueillies, mais la méthode est bonne. Et voilà, simplement, je crois qu'on effleure à nouveau cette question-là. L'IRMES a voulu se lancer dans la création d'une nouvelle grille, d'un nouvel outil qui lui permettait de recueillir des informations standardisées, là, pour le coup, avec ce double objectif qui est l'évaluation et la recherche, qui, des fois, sont des objectifs contradictoires. Et effectivement, peut-être que le résultat n'est pas à la hauteur des ambitions, et à vouloir tout concilier et aussi supprimer certaines choses qui sont malheureusement incontournables dans ce genre d'exercice, on en arrive à un outil qui est, encore une fois, pas à la hauteur des ambitions, d'autant plus que le mode de diffusion de l'outil est assez contestable. C'est-à-dire que l'envoyer par la poste et dire faites-le passer sans savoir qui, quoi, comment, et là c'est évidemment un peu difficile. Mais j'ai eu un gars de mon équipe, le docteur Mangon, que j'en connais bien ici, qui a fait partie de la commission de l'IRMES, qui, pour la création de la grille. Et il est revenu plusieurs fois, effectivement, nous répercutant les réserves, quoi, en disant on est en train de créer quelque chose qui va être un peu compliqué. Quoi. Compliqué. Et effectivement, bon, le résultat, après, à la loupe statistique, devient un peu complexe. Mais c'est une question ancienne, quoi. Une question ancienne qui réapparaît aujourd'hui. Très bien. D'autres questions ?
Concernant justement le GEMS, puisque vous avez un recul important du nombre de grilles évaluées sur le nombre d'années. Est-ce que vous avez le sentiment d'une meilleure acceptation du monde sportif de ce type d'évaluation, déjà, et d'une, par rapport au nombre de sportifs évalués en Aquitaine? Justement, ça, c'est un des indicateurs de bonne acceptabilité de l'étude, de cette grille, cette fameuse grille. Et deuxièmement...
Oui, non, d'accord. Donc, concernant l'acceptation, je pense que ça ne tient pas forcément à l'outil lui-même, mais plutôt à l'évolution au cours des dernières années. Mais c'est vrai que quand même, l'outil est intéressant et bien accepté par le milieu sportif et médical, puisqu'on peut en faire un compte-rendu, puisque c'est très structuré, puisque c'est très partageable. Et donc, il y a vraiment des informations concrètes du quotidien et qui concernent directement les sportifs et leur entourage médicaux, paramédicaux, etc. Et entraîneur, bien que bon, les entraîneurs n'aient pas accès au bilan psychologique. Voilà, mais maintenant, ça fait partie effectivement des choses bon, qui s'organisent dans le suivi médical systématique et qu'ils acceptent très bien.
Juste, je précisais pour dire que en Aquitaine, justement, il y a eu le principe de faire venir à des staffs des entraîneurs pour avoir un rendu général. De ces grilles et de l'acceptabilité de ces grilles par le monde sportif, avec justement le principe de faire accepter ce suivi psychologique qui connaît quelques réticences dans d'autres régions, justement parce qu'il n'y a pas eu, alors il n'y a pas eu cette standardisation, il n'y a pas eu cette espèce de modèle qui fait que il y a un modèle scientifique qui est reconnu maintenant. Et grâce aux journées de psychopatho, à toute cette communication autour de cela, le monde sportif en Aquitaine, dans les pôles d'ailleurs, l'ont clairement accepté. Ce qui a été difficile, hein, vous le savez. Hein. Et c'est pas fini.
Oui, bonjour, Cédric Quignon-Fleuret, je suis psychologue à l'INSEP. J'ai suivi l'évolution du travail de Capucine. Et on a effectivement émis, dès le début, un certain nombre de réserves et de questionnements concernant... la création de cette grille et effectivement l'analyse qu'on allait pouvoir en faire, compte tenu de l'aspect, notamment à l'INSEP, clinique qui était fait des bilans psychologiques. La question que je voulais poser concernant la formation qui est faite pour la grille du GEMS. Alors, juste une précision si j'ai bien compris, parce qu'effectivement, là, je ne veux pas relancer le débat sur le bilan psychologique, mais figure effectivement dans l'arrêté la possibilité de faire passer le bilan psychologique aussi bien par un psychologue que par un médecin. La question que je voulais poser, c'était effectivement quelle est la formation exacte et le temps de formation pour pouvoir ensuite faire passer la grille, et est-ce que c'est faisable donc en une journée à la suite par un médecin ? Parce que je me posais du coup la même question que vous, à savoir, est-ce que, si c'est bien une journée, si j'ai bien compris, est-ce qu'une journée pour un médecin généraliste de formation va lui permettre d'avoir la même, je vois que des psychologues cliniciennes, la même sensibilité, est-ce que la même sensibilité clinique qu'un psychologue, et est-ce que ça ne va pas potentiellement, dans le recueil de données futures, induire nécessairement un autre biais lorsqu'on va comparer des chiffres qui seront faits par des médecins, et notamment des médecins qui auront été formés en une journée sur la dimension psychopathologique. Voilà.
Oui, donc je vous réponds. Effectivement, on ne peut pas former à la psychopathologie en elle-même en une journée. On peut former à la passation du GEMS, à l'esprit un peu de l'outil, ce qu'on va rechercher aux conventions de codification de chaque item. Dans la symptomatologie clinique qui est explorée, dont la thématique donc santé psychologique, ça concerne quelques items voilà, sur lesquels on peut s'attarder un petit peu, mais ce sera peut-être aussi au médecin, s'il a vraiment envie de s'impliquer dans la passation de ses bilans psychologiques, d'aller lui-même à la recherche d'informations cliniques. Je crois que...
Donc ça induit un biais.
Non, je pense pas. Non, c'est pas, ça induit pas un biais important, parce que même entre psychologues, on peut avoir des formations un peu différentes, des sensibilités, comme vous dites, un peu différentes. Mais l'intérêt d'un outil comme ça, c'est de gommer justement un petit peu les sensibilités en s'appuyant vraiment sur des critères diagnostiques, sur des choses vraiment très rigoureuses, très définies en fait pour chaque item. Donc ça permet de lisser un petit peu les formations de chacun, voilà, à condition de bien vouloir utiliser l'outil comme il est prescrit de l'utiliser.
Quelque chose qui amende un petit peu la critique, qui est normale, c'est que l'objectif de la formation de GEMS, ce n'est pas de donner la même sensibilité entre un médecin généraliste et une psychologue clinicienne. Ce n'est pas du tout l'objectif, c'est comme le dit Sarah, de former l'utilisation de l'outil. La formation générale d'un médecin généraliste, a priori, lui suffit effectivement à avoir des formations de base en psychologie, a priori. Et Ce qui, pour nous, couvre tout, c'est que les médecins qui nous demandent à se former au GEMS, c'est-à-dire des gens qui sont susceptibles d'être intéressés par faire passer des bilans de psychologie, ce sont des gens qui, a priori, ont développé une pratique, et étant moi-même médecin généraliste et ayant pratiqué la médecine générale, on n'embrasse pas tout de la même façon, toute notre formation, il y a des domaines qu'on développe un peu plus par intérêt, par avidité, où on approfondit la connaissance. Ce sont des médecins généralistes qui se tournent vers nous pour se former au bilan psychologique, ce sont forcément des gens qui ont approfondi cette base de connaissances dont vient de parler Sarah, c'est-à-dire la psychopatho. Ce n'est pas une formation qu'on impose à une série de médecins généralistes tirés au hasard pour les hisser à un niveau de psychologue clinicien. Ce sont des médecins généralistes qui, dans leur exercice, à un moment donné, ont rencontré un besoin, donc j'espère, si on les cherchait les connaissances, s'ils ne les avaient pas, pour y répondre, et là viennent trouver un outil pour être opératoire dans un domaine. Donc a priori, cette démarche de volontariat nous écarte beaucoup du biais potentiel dont vous parlez. C'est notre point de vue en tout cas.